maintiendra pendant la nuit jusqu'au bout. On maintiendra pendant l'année jusqu'au bout du mois de juin, donc un ou deux cours de métaphysique, de théologie naturelle, on vous le dira. Et puis on continuera les examens. Je sais que cette semaine-ci, ça s'est continué, pendant qu'à Fribourg, je faisais les autres. Hein. Les examens de licence, brillamment passés par mon frère et par les sœurs de Bethléem. Alors, je vais continuer avec vous cet effort au point de vue métaphysique, la métaphysique de l'un et du multiple. Il faut essayer de bien entrer dedans. Et vous avez dit que c'était particulièrement difficile et particulièrement important. Alors, je vous disais, après avoir fait une petite topique historique qui serait très intéressante à faire, parce que c'est sûrement le problème de l'un et du multiple et qui est l'œcuménisme philosophique dans toute sa splendeur. Et ça nous fait peut-être comprendre comment il n'y a pas de solution en se plaçant du côté de l'un et du multiple. Aucun philosophe n'a rejeté le problème de l'un et du multiple. Des quantités de philosophes ont rejeté le problème de la substance, encore beaucoup plus le problème de l'acte et de la puissance. Beaucoup de philosophes n'acceptent pas la causalité ou la transforment. D'autres philosophes n'acceptent pas la participation. Tandis que le problème de l'un et du multiple est accepté par tout le monde. C'est toujours très intéressant de voir ça. Ça veut dire que du côté de l'extension, on est là en présence d'un problème qui, d'une certaine manière, enveloppe toute la philosophie. C'est pour ça que Rémacœur, qui est mort maintenant, mais qui était un métaphysicien de Louvain, et qui disait, métaphysicien thomiste de Louvain, quand il venait faire des conférences à Fribourg, il disait toujours, il faudrait commencer la métaphysique par le problème de l'un et du multiple, parce que là, on est en présence d'une opinion que tout le monde accepte. Et vous comprenez bien, commencer par le problème de l'un et du multiple, on n'en sort pas. Si vous commencez par le problème de l'un et du multiple, vous n'en sortirez pas, vous resterez toujours dans l'un et le multiple. C'est comme la théologie, quand elle commence par l'œcuménisme, elle n'en sort pas. Et elle restera toujours dans l'œcuménisme. Alors, c'est très analogue, c'est très intéressant à faire ces parallélismes-là. On comprend très bien que s'il n'y a pas une recherche de la vérité, on n'en sort pas. L'œcuménisme n'est pas une recherche de la vérité en premier lieu. C'est des choses en commun, des choses qui sont acceptées par tout le monde, et on essaie de voir. Alors c'est la même chose quand il s'agit du problème de l'un du multiple. Alors, ceci c'est simplement pour situer l'importance de ce problème, et de voir que le problème de l'un du multiple devient le problème central de la critique. Et que le problème de l'un du multiple est d'une certaine manière dépassé par le problème de l'universel. Parce que l'universel, il est un et il est multiple. Alors c'est intéressant de voir que de fait, l'être de raison, qui est un être que l'intelligence humaine est capable de réaliser, l'universel, on est en présence de l'un du multiple. Et les deux sont intimement liés. Ce qui montre que toute dialectique qui est l'œuvre de l'intelligence essaiera toujours d'unir l'un et le multiple. Là, on en a le critère par le point de vue de l'universel. Dialectique est au niveau de l'universel, ça ne peut pas être autrement. Il n'y a pas de dialectique en dehors de l'universel. Mais la différence, c'est que l'universel demeure conscient qu'il est un être de raison, tandis que la dialectique oublie que c'est un être de raison et qu'il veut être le mouvement même de la réalité. Donc, après avoir fait une topique historique que nous avons fait rapidement, je reviens au problème philosophique et je dis, repartons à partir de l'expérience. Et je vous disais qu'il y avait trois grandes expériences typiques de l'unité et du multiple. Et je crois qu'il faut bien les comprendre, ces trois expériences. Elles sont intéressantes parce que, de fait, elles nous montrent bien ce que nous pouvons concevoir comme l'un et le multiple. Première expérience, l'œuvre d'art. L'œuvre d'art, c'est ce qui nous donne le mieux l'expérience de l'unité et de la multiplicité. Ça, c'est sûr. Cette unité dans l'œuvre d'art se ramène à la forme. C'est ça qu'il faut essayer de saisir. Hein. La forme implique une certaine unité. Il y a un type d'unité. L'œuvre d'art, c'est la forme expressive, mais c'est toujours l'unité. Et la matière, c'est la complexité. L'œuvre d'art unifie la complexité dans l'unité. C'est la victoire de la forme par rapport à la matière. Toute œuvre d'art, n'importe quelle œuvre d'art, c'est toujours comme ça. Et dans la mesure où la forme est victorieuse de la matière, Plotin dit, on est en face de la beauté. Puisque le beau, c'est la victoire de la forme sur la matière. Donc vous voyez que c'est une manière de traduire la victoire de l'un sur la multiplicité. Première expérience, une expérience fondamentale dans la vie de l'homme. Je crois que l'œuvre d'art est l'unité. Et beaucoup ramènent le problème de l'unité à la forme d'art, c'est-à-dire un aspect formel. Première expérience. Deuxième expérience, tout à fait différente. L'expérience au niveau biologique. Je ne les classe pas, on pourrait se demander comment il faut les classer ensuite. Je les prends tout simplement. L'expérience que nous avons de notre santé. L'expérience du sportif. Le sportif a cet immense avantage, c'est qu'il ne pense pas à la multiplicité. Vous voyez, en ski, quand on voit les gens qui font du ski, les belles courses de cheveux. Le concours du ski, c'est extraordinaire de voir l'unité du bonhomme. Hein. C'est extraordinaire. Il dépasse tous les obstacles. La santé donne l'unité qui est une harmonie. Une harmonie de vie. C'est pas du tout le même type d'unité. Et dès que vous êtes malade, vous retombez dans la multiplicité. Vous ne dites jamais, ça va bien ma tête ce matin. J'ai mal à ma tête. J'ai mal au petit doigt. Ah, il va très bien, mon petit doigt. C'est non, non, vous n'y pensez pas quand il va bien. Tandis que quand il va mal, tout de suite, le médecin, c'est l'homme de la multiplicité par le point de vue de la maladie. Tu vois, mais normalement, il tend vers l'unité. Il doit ramener la multiplicité à l'unité. Les humeurs des anciens, hein, multiplicité, les fièvres quartz. On voit très bien ce que ça veut dire. Hein. C'est ce qui donne le sens de la multiplicité. Vous avez le sens de la diversité de la multiplicité dès que ça ne va plus. Donc là encore, quelque chose qui est très particulier. L'unité, alors, au niveau du vivant. La vie implique une certaine unité. C'est pas la même unité que l'unité de l'œuvre. Là, on est en face d'une unité très particulière, qui est la forme. Ça, on ne peut pas nier qu'il y a aussi une expérience que nous avons là. Troisième type d'expérience, dans l'amour d'amitié. Je crois que là, nous avons trois expériences types, irréductibles les unes par rapport aux autres, vous allez le voir, tout de suite. L'expérience de l'amour d'amitié, c'est qu'entre amis, il n'y a pas idem valier. Toutes les scènes de ménage, vous voyez, qui viennent justement briser l'idem velle. Idem velle, c'est l'unité dans le vouloir. Et l'unité dans le vouloir, c'est justement à partir de l'amour d'amitié, parce que l'amour d'amitié, c'est quelque chose, c'est de l'ordre de l'intentionnalité. Mais une intentionnalité finalisée. À ce point de vue-là, c'est très très différent de l'unité artistique. C'est tout à fait autre chose. C'est une unité intentionnelle, c'est l'intentionnalité vis-à-vis de la fin qui nous donne l'unité et qui fait que nous avons la même fin. Entre amis, il y a la même fin. Et parce qu'il y a la même fin, il y a une velle, il y a le même vouloir. Et quand il y a ce même vouloir dont on a conscience, qu'on vit, de ce même vouloir, alors à ce moment-là, on assume la multiplicité, la diversité, plus exactement. La diversité des opinions. Dès qu'il n'y a plus un amour suffisamment fort, on retombe dans la diversité des opinions. Et dès qu'on retombe dans la diversité des opinions, on sait très bien ce que ça fait. Chacun tire à soi pour être victorieux. Alors c'est la diversité des opinions. Alors que la diversité des opinions est assumée et dépassée par l'idée de l'idée. Mais toujours la conquête de l'un sur le multiple. Et je crois que c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que dans la réalité, nos expériences, c'est cela. Nous n'aimons pas vivre dans la multiplicité. C'est l'anarchie. À moins d'avoir un goût pervers. Ça, ça existe. Il y a des gens qui ont un goût pervers. Mais le philosophe ne fait pas sa philosophie à partir du goût pervers. Hein. Il fait la philosophie à partir, au contraire, de ce qui est l'expérience humaine normale. Mais évidemment, il y a des gens qui aiment la diversité pour régner. Alors ils le cachent, ils disent que ce n'est pas du tout que c'est pour régner, mais en réalité, diviser pour régner, on sait très bien, c'est la grande manière. Alors très bien que les gens aient des opinions diverses, on se... en politique c'est constamment comme ça, vous voyez ? Parce qu'en politique, on pourra régner dans la mesure où on divise. Et alors on mettra les gens dans la diversité des opinions en empêchant l'intentionnalité finalisée vers le bien commun. Et on pourra régner de cette manière-là. Tactique très facile à comprendre. Alors, vous avez donc ici, du côté de l'amour, dans l'intentionnalité finalisée, donc dans ce que représente l'expérience vécue d'amour, vous avez encore une exigence d'unité. Une exigence d'unité qui est capable de faire que deux soient un. Deux sont un. Vous voyez, c'est au niveau de la diversité des personnes. Deux personnes dans l'unité. Plusieurs personnes dans l'unité, si cette amitié peut grandir, parce qu'on aura la même chose au point de vue des citoyens, dans la mesure où il y a une concordia, une harmonie vers la fin, alors on sera unis dans le bien commun. Et alors à ce moment-là, il y aura une unité au-delà de la diversité des opinions. Autrement, on retombera dans la diversité des opinions. Bien, je crois que ce sont les trois grandes expériences de l'unité que nous avons. Il y en a beaucoup d'autres. Hein. Je prends trois expériences types. C'est trois expériences. Et je reste très curieux. Hein. Vous l'avez remarqué, il faut mettre ça en nota bene. C'est pas de la philosophie ce que je vous dis là. Mais c'est quand même intéressant de voir que c'est les trois expériences types que saint Paul prend pour l'unité du corps mystique. Ça m'a toujours beaucoup frappé, ça. Et c'est vrai que ces trois unités, ces trois expériences types que nous avons. Oui, c'est facile à voir, hein. Les trois expériences, l'épître de l'époux et l'épouse, le point de vue du corps mystique et le point de vue du temple. C'est les trois grandes expériences que nous avons de l'unité. Et c'est à partir de ces trois expériences de l'unité que saint Paul va, au point de vue proprement révélation, nous faire comprendre ce que c'est que l'unité de l'Église. Parce que comprenons bien, ces trois unités sont irréductibles. L'unité, cette unité dans l'intentionnalité, n'est pas la même que cette unité du vivant qui est une unité substantielle. Ici, on est en train d'une unité substantielle. L'unité substantielle de vie. C'est la vie végétative, c'est assez gros, mais c'est la vie végétative. C'est quand même une unité substantielle de vie. Ici, c'est une unité artistique, de l'œuvre, une unité formelle. Donc les trois unités sont irréductibles, vous ne trouverez jamais en même temps ces trois unités. Ça représente vraiment trois expériences types. Bon, nous pouvons tous comprendre ça, décrire cela le mieux qu'on peut. Vous pouvez faire une phénoménologie de ces trois unités, ce serait très intéressant, et vous rejoindriez du mérite par là. Parce qu'au fond, c'est une manière de comprendre ce que c'est que l'unité, de saisir le vécu de ces trois unités. Le vécu de ces trois unités, au point de vue artistique, au point de vue de ma santé, et le sentiment que j'ai de mon unité. Il y a des jours où on est de bonne humeur, on est en pleine santé, c'est merveilleux. Dès que vous êtes fatigué, il y a le poids du corps. Et la même chose au point de vue de l'amour d'amitié. Quand de fait on s'aime profondément, on a des opinions différentes, ça n'a aucune espèce d'importance de se dépasser. Dès que vous êtes fatigué, immédiatement la diversité reprend. Le poids de la diversité, le poids de la multiplicité et cette espèce de légèreté de l'unité. Hein. Je crois que ça, on peut dans ces expériences bien comprendre cela. Il y a une espèce de légèreté, vous voyez, une communauté vivante possède une unité. Et elle est légère, grâce à cet amour d'amitié. Dès qu'elle est lourde, alors c'est la diversité. Chacun marche avec son poids pesant, lourd. Vous voyez ça, c'est les opinions différentes. Mais on sent qu'il y a un poids terrible parce qu'il n'y a plus, cet élan, ce dynamisme qui finalise et qui fait l'unité. Facile à comprendre. Je réfléchis maintenant philosophiquement là-dessus. Je vois qu'il y a une unité au niveau de la forme. Je vois qu'il y a une unité au niveau de la substance vivante. Je vois qu'il y a une unité au niveau de la faim et de l'amour. C'est quand même intéressant de voir ça. Trois types d'unités. Je les analyse et j'en ai l'expérience. Je n'ai pas l'expérience d'un principe, mais j'ai l'expérience de l'unité. Ah, ça, c'est capital de comprendre ça. Ça, c'est le grand tournant philosophique. Hein. J'ai l'expérience de l'unité. Si j'ai l'expérience de l'unité, ça prouve que l'unité n'est pas un principe. L'unité, je la saisis, j'en vis. Je vis de l'unité. Je vis de l'amour et l'amour met en moi une unité. Mais j'en ai l'expérience. J'ai le sentiment de l'unité. Psychologiquement, j'ai le sentiment d'unité. Ça va bien. Tout est unifié dans ma vie. Ça va bien. Tout est unifié dans ma vie biologique. Tout est unifié dans ma vie profonde. Tout est unifié dans l'œuvre que je réalise. Et je sens bien que cette unité, je dois tout le temps la reprendre. Et parce qu'autrement, il y a un poids. Il y a un poids qui ramène toujours à la diversité. C'est le poids de la matière. L'entropie. Hein ? On voit très bien ce poids de la matière qui va vers la diversité. Ce poids de la matière qui se fait sentir au niveau de l'œuvre. Et c'est vrai, ça se fait sentir au niveau de l'œuvre. La matière peut toujours être principe de corruption. Et la corruption détruit la forme. Le point de vue de la santé, le corps peut toujours être capable de corruptibilité de maladie. Donc lui aussi sera là pour arrêter l'unité profonde du corps humain. Et le point de vue de l'amitié, alors ça, c'est les opinions. Vous voyez, c'est le primat de l'opinion sur l'amour. Le primat de l'intelligence sur l'amour. Le primat du raisonnement sur l'amour. Qui viendra tuer l'unité de l'amour. Et qui mettra dans la multiplicité la diversité. Donc j'ai l'expérience de la multiplicité de la diversité. Donc l'unité et la chose n'est pas un principe. Et la diversité, elle se fonde sur la potentialité. La matière est la potentialité. Ici, vous voyez, je suis en présence de la potentialité. Ici, je suis en présence de la matière. Et ici aussi, les deux matières. La matière substantielle et la matière artistique. Et puis la potentialité. Donc ça, je peux facilement saisir que j'ai l'expérience de l'unité et de la diversité. Donc l'unité et la diversité, l'unité n'est pas un principe. Mais l'unité se rattache à quelque chose. Il y a une source de l'unité. Cette source de l'unité, c'est la forme. Cette source de l'unité, c'est l'âme spirituelle, ou l'âme végétative. Et cette source de l'unité, c'est la fin. Puisque, de fait, je vis ces diverses unités. Et je rattache ces unités à cela. Je peux donc comprendre, qu'au point de vue philosophique, l'unité n'est pas du tout découverte comme un principe, puisque j'en ai l'expérience immédiate. C'est donc saisi beaucoup plus comme quelque chose qui ramène la diversité à l'unité. C'est le terrain de la lutte et le terrain de la victoire. C'est grâce à l'unité qu'il y a victoire. Et quand je suis dans la diversité, il n'y a pas de victoire. Je peux donc, à partir de là, une fois que j'ai compris cela, je peux donc, à partir de là, comprendre que le problème de l'un et du multiple se situe au point de vue philosophique comme une conséquence, comme une propriété. Alors, je vais pouvoir, à partir de ce moment-là, rattacher tout ce que nous avons découvert au point de vue philosophique, jusqu'ici, à ce problème de l'unité. C'est ce que nous allons faire maintenant. Il y a la démarche, hein, c'est tout à fait autre chose, c'est pas une induction que nous faisons. Au fond, c'est la... J'aime presque dire, c'est la philosophie, c'est du vécu. Peut-être que ce serait là où il faudrait rattacher, vous voyez, au point de vue méthode, la méthode philologique. Dumérima a très bien saisi que la méthode phénologique, c'était une méthode qui nous faisait comprendre ce que c'est que l'unité et la multiplicité. Et ça, il a saisi quelque chose d'intéressant à ce point de vue-là, pour bien faire comprendre qu'en effet, il y avait là quelque chose que nous pouvions saisir d'une façon particulière. Alors, nous allons maintenant, avec ce fond, hein, ici c'est le fond de l'expérience. Ça reste toujours présent. Maintenant, nous allons essayer de raisonner philosophiquement sur ce que nous avons déjà découvert et nous demander si, de fait, en fonction des principes philosophiques que nous avons découverts, des principes philosophiques, des principes métaphysiques en premier lieu, nous n'allons pas être en présence de divers types d'unités. Et nous essaierons de rattacher ça alors à l'expérience que nous avons. Nous avons donc, au point de vue métaphysique, saisi deux grands axes de pensée, la saisie de la substance et la saisie de l'acte. Et nous avons vu que l'acte impliquait cinq modalités. Alors, la substance, principe selon la forme de ce qui est, ramène toujours tout à une certaine unité. La substance est indivisible en elle-même, hein? Alors, c'est pas la question. Un principe est toujours indivisible en lui-même. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est d'essayer de comprendre comment la substance, dans sa réalisation concrète, donc le pos de la substance, le comment de la substance, c'est le comment, c'est pas la substance comme principe. La substance comme principe est indivisible. Tous les principes sont indivisibles, il n'y a pas de problème. Tandis que ce qui est intéressant, c'est de voir la manière dont ce principe se trouve réalisé à l'intérieur du monde physique. Alors c'est par rapport à l'homme. Le problème de l'individualité de l'homme, le problème de l'individualité de toute la réalité, c'est toujours la substance dans son commun, c'est-à-dire la manière dont elle est victorieuse à la matière. Alors vous avez tout de suite ici le problème de l'âme. Chez le vivant, c'est-à-dire chez l'homme, ma substance, c'est mon âme. Nous avons déjà vu ça. La substance, c'est notre âme. Donc notre âme va être source d'unité. C'est très vrai, elle est source d'unité. Et c'est bien l'expérience que j'ai lorsque je comprends que je suis en pleine santé. En pleine santé, c'est-à-dire que j'ai l'expérience de mon unité. Et dès que j'ai l'expérience, au contraire, d'une maladie, quelque chose qui ne va pas, je sens le poids du corps. Normalement, quand on est en pleine santé, on ne sent pas le poids du corps. On peut être fatigué le soir, c'est normal, après tout, c'est très bien que je suis fatigué, que je dormirai bien. Tandis que quand vous n'êtes pas fatigué, vous ne dormez pas bien. Tandis que quand vous êtes bien fatigué, vous dormez bien. C'est une béatitude de bien dormir, hein? Alors c'est quand même quelque chose. Donc c'est encore un sens de l'unité. Assez particulier, mais c'est encore un sens de l'unité. Et puis quand on se réveille après avoir bien dormi, je ne suis pas réveillé de la nuit, c'est merveilleux, ça s'est passé comme un instant. C'est le sens de l'unité à travers le temps extraordinaire. L'âme, source d'unité. Vous voyez, je rejoins l'expérience du corps, de la santé, et je vois bien qu'en effet, l'unité profonde qui est en moi provient de mon âme. À travers la multiplicité du corps. Le corps est source de la complexité et mon âme est source de mon unité. Donc j'ai une première unité qui est l'unité qui se rattache à la substance. Est-ce que je peux aller plus loin? Parce que ça, j'ai l'expérience, c'est ça. N'oubliez jamais, hein, j'ai l'expérience affective de mon âme. J'ai l'expérience affective de mon unité au point de vue de ma santé, c'est affectif. J'ai le sentiment de bien me porter. Je suis en pleine forme, merveille, c'est extraordinaire. Alors le médecin qui est là, qui regarde pourvu que ça dure, hein, j'ai l'expérience que ça va très très bien, c'est merveilleux. Mais je n'ai pas l'expérience de la substance. Ah, voyez, ici je vais creuser tout de suite. J'ai l'expérience de mon âme, mais je n'ai pas l'expérience de ma substance. Sauf quand vous rêvez. Mais je n'ai pas l'expérience de ma substance. C'est la très grosse différence, c'est le niveau différent de l'âme. Mais je suis parti de là parce que c'est normal pour redécouvrir l'expérience que j'ai. Source d'unité et expérience d'unité. Mais alors, je dois passer de l'âme à la substance pour comprendre que, de fait, c'est bien la substance. Principe selon la forme de ce qui n'est plus au niveau de la vie, qui est source d'unité radical de mon être. J'ai le passage entre les deux. Ça, c'est important d'un point de vue métaphysique. Hein. Je pars de mon expérience, de mon sentiment d'unité, d'harmonie qui est en moi. Je peux faire cette expérience-là. Et je peux réaliser cette expérience-là. Je pars de cette expérience. Et je vois que cette expérience, elle est liée à mon âme, c'est bien évident. C'est mon âme qui est principe de vie. Et c'est elle qui fait le principe radical d'unité dans ma vie. Donc c'est normal qu'il y ait un sentiment d'unité en moi. Quand mon âme est victorieuse de mon corps. Donc quand je suis bien portant, c'est grâce à mon âme que je suis bien portant, ne l'oubliez pas, c'est pas grâce à votre corps, c'est grâce à votre âme que vous êtes bien portant, c'est grâce à votre âme végétative, hein. C'est pas moral, hein. Ça n'a rien à voir, mais ça a une petite influence quand même, hein. Redondance morale, c'est plus facile d'être vertueux quand on est bien portant que quand on est complètement... malade, c'est beaucoup plus difficile d'être vertueux. C'est beaucoup plus difficile d'être de bonne humeur quand on est malade que quand on est bien portant. Quand on est bien portant, être de bonne humeur, ça va de soi. C'est pas très vertueux, hein. C'est pas très méritoire, ça va de soi. Tandis que quand on est souffrant, quand on est maladif, c'est difficile de maintenir toujours la bonne humeur. Il y a quelque chose. Vous voyez le passage, alors, de l'âme végétative. Au point de vue moral, ça, laissons de côté ça pour le moment, mais comprenons que là, il y a une expérience qui me permet d'aller plus loin au point de vue métaphysique et de dire que mon âme, c'est ma substance. Je regarde maintenant donc mon âme en tant que substance et dire qu'elle est principe d'unité. Ce qui me permet de dire que l'unité est donc une propriété dans l'ordre de l'être. Puisqu'elle est conséquence directe du principe, de ce principe radical qu'est la substance. Il y a un rayonnement de la substance dans tout mon être, et ce rayonnement de la substance dans tout mon être, c'est ce qui fait l'unité. Je comprends qu'il y a là quelque chose de très particulier que je saisis dans l'ordre du pose. Hein. La propriété se saisit dans l'ordre du pose, et non pas dans l'ordre du principe. La conclusion scientifique regarde le point de vue de la propriété. Et la conclusion scientifique revient à l'hécaston, à l'égard de chacun. La conclusion scientifique n'est pas au niveau des principes. Je me sers des principes pour connaître la réalité concrète et saisir cette réalité concrète dans la lumière du principe. Et dans la lumière du principe, je saisis que cette réalité concrète qui existe, elle a son unité. Oui, donc, je peux dire que la première chose que je peux conclure au point de vue métaphysique, et c'est intéressant parce que c'est la première conclusion métaphysique, et la première conclusion métaphysique, c'est que la substance, principe selon la forme de ce qui est source d'unité concrète de l'être. Source d'unité concrète de l'individu. L'individu a son unité. Et cette unité, c'est celle que je vis actuellement. Mais cette unité métaphysique, je n'en ai pas l'expérience, je la conclue. Tandis que j'ai l'expérience de mon unité vitale. Et c'est grâce à cette expérience de mon unité vitale que je peux comprendre le sens profond de cette unité métaphysique par le principe de la substance. Je reviendrai ensuite, hein, parce qu'on essaiera de qualifier ces diverses unités. Je peux passer de ce sentiment d'unité que j'ai, de cette expérience de l'unité vécue, au niveau propriété. Et c'est intéressant parce que ça nous aide à comprendre les liens entre la phénoménologie et la métaphysique. La phénoménologie est toujours au niveau du vécu. Donc, elle ne dépasse jamais l'expérience de l'âme dans le corps. Tandis qu'au contraire, la métaphysique est au niveau de la substance, et au niveau de la substance, je peux saisir l'unité comme propriété de la réalité existante, de la réalité subsistante. Cette réalité qui subsiste a une unité dans l'ordre de l'être. Deuxième expérience, hein, le point de vue de l'acte. Alors nous avons dit cinq modalités de l'acte. L'essai, le bien, le vrai, les opérations vitales et le mouvement. Nous allons voir maintenant quelles sont ces modalités de l'unité à propos de ces cinq modalités de l'acte. L'acte en lui-même est un, il est indivisible, c'est bien évident. Mais il est source aussi d'unité, exactement comme la substance. Et ce n'est pas le même type d'unité. Et c'est ça qui m'intéresse ici, c'est d'essayer de saisir la diversité de ces modalités à partir de la recherche métaphysique des deux grandes causes, cause selon la forme, cause selon la forme. Nous avions ici l'expérience dans l'ordre de l'amour d'amitié. Donc je prends celle-ci tout de suite, puisque c'est là où j'avais l'expérience. L'expérience de la fin. L'expérience de l'idem validé chez les deux amis. Alors, ceci me permet de comprendre qu'il y a en effet une certaine unité qui va se rattacher au bien. Et cette unité qui se rattache au bien est vécue au niveau de la finalité. Là encore, c'est normal. C'est par la fin que je vis du bien. Le bien fonde la fin au niveau métaphysique. Au point de vue d'ordre phénoménologique, je vis de la fin de ce qui me finalise, et par là je comprends que je suis relié au bien. Et par le point de vue de la fin que je suis relié au bien. Or, dans l'ordre de l'amour d'amitié, il y a la même unité profonde des amis, idem valet, qui les unit intentionnellement à la fin et qui leur permet de vivre ce bien. Métaphysiquement, je vois comment la modalité de l'acte implique le bien, et donc je peux dire qu'il y a une certaine unité, propriété au niveau du bien. Vous voyez bien que cette unité au niveau du bien est tout autre que l'unité au niveau de la substance. Nous essaierons de comprendre ce tout autre, je le signale tout de suite. Il faut bien saisir, hein. Évidemment, ici, vous mettez en acte toute votre métaphysique. Hein. C'est une conclusion. Donc, à la fois, c'est très simple si on a compris. Si on n'a pas compris les grands axes de la métaphysique, on n'y comprend rien du tout. Hein. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de saisir que je rejoins par l'expérience, au niveau phénoménologique, ce que métaphysiquement, j'avais saisi au niveau proprement métaphysique. C'est toujours intéressant ça, parce que ça confirme, ce sont des lumières différentes qui se confirment. Bon, je vais maintenant poser la question, l'unité au niveau de l'essai. Est-ce qu'il y a une nouvelle expérience? Ou bien cette unité au niveau de l'essai rejoint celle de la substance? Je crois qu'il faut dire qu'elle rejoint celle de la substance. C'est l'unité de l'essai de l'individu qui subsiste, et donc c'est l'unité de la réalité existante. La réalité existante a son unité est au niveau substantiel, elle est au niveau de son essai. Mais c'est la même unité, l'une prise formellement, l'autre prise d'une côté finale de l'essai. L'autre expérience, l'autre unité, l'autre modalité, c'est le vrai. Ça, je n'ai pas pris d'expérience de ce côté-là. Mais je peux en prendre. Je peux réfléchir sur l'unité que j'ai dans ma vie intellectuelle. Dans ma vie intellectuelle, j'ai une certaine unité quand j'atteins la vérité. Et là, j'ai une certaine expérience de la vérité. Puisque j'ai conscience que mon intelligence est capable de s'appuyer sur le roc. Et tant que mon intelligence ne s'appuie pas sur le roc, elle n'est pas dans la vérité. Elle ne possède pas la vérité. Et donc, elle n'a pas de stabilité. La vérité me donne une certaine stabilité. Mon intelligence peut se mesurer sur la réalité. Quand je saisis le jugement d'existence, je peux dire ce que j'affirme est vrai et je m'appuie sur la réalité existante, extrinsèque. La réalité joue le rôle de mesure. Si la réalité joue le rôle de mesure, elle joue le rôle justement de quelque chose sur lequel je m'appuie. J'ai donc une certaine expérience de la vérité au niveau proprement intellectuel. Cette vérité intellectuelle, vous voyez, n'est pas l'expérience de l'œuvre d'art, hein, c'est autre chose. C'est une expérience d'un type différent. Mais c'est une certaine expérience que j'aurais pu la donner tout à l'heure. J'ai pris exprès ces trois expériences parce qu'elles sont plus typiques, mais je peux très bien dire qu'il y a une certaine expérience de la vérité au niveau intellectuel. Cette expérience de la vérité au niveau intellectuel va se fonder métaphysiquement sur ce troisième mode de l'acte, le vrai. Alors, je rappelle tout de suite hein, que ce vrai est au niveau métaphysique, ce qu'on appelle le vrai ontologie. Et ce n'est pas le vrai, ce n'est pas la vérité vécue au niveau de l'expérience de ma vie intellectuelle. Ma vie intellectuelle, elle est vécue au niveau de ce que je connais, au niveau de ce que je saisis. Elle est donc vécue au niveau de ce que j'énonce, de ce que je dis. Elle est vécue donc au niveau là, vérité formelle, ce qu'on appelle la vérité formelle, celle qui est mesurée par la réalité. Celle auquel je reviens toujours, puisque celle-là, je la possède au-dedans de moi-même, et qui me permet de mesurer au réel. Tandis qu'ici, le vrai fonde l'unité au niveau proprement de la vérité formelle. Donc, ça fonde la vérité formelle qui est vécu par l'intelligence. Mais je peux vivre cette sécurité que j'énonce en disant ce que j'affirme est vrai. Quand vous dites ça, vous avez au plus intime de votre vie intellectuelle un moment où vous pouvez vous arrêter. Tant que vous n'avez pas saisi la vérité, vous ne vous arrêtez pas, vous cherchez. Je ne sais pas encore très bien si ce que je dis est vrai. Je cherche. Et tant qu'on cherche, on est nécessairement comme celui qui ne peut pas s'arrêter. Il est en enquête. Tandis qu'au contraire, lorsque vous pouvez saisir la vérité, du moins quand vous pensez la saisir, vous dites ce que j'énonce est vrai. Et quand vous dites ça, ça prouve que vous avez justement vérifier ce que vous énoncez en le mesurant à autre chose qui lui donne la stabilité. Alors ceci est très net, encore une fois, dans le jugement d'existence. Dans le jugement d'existence, c'est très net. C'est que ma vérité s'appuie sur le roc. Le roc, c'est la réalité cette table existe, je vous dis que cette table existe. Je la touche. Je l'expérimente, je dis qu'elle existe. Et alors à ce moment-là, je peux affirmer ce que je dis est vrai. J'ai donc une vérité formelle saisie à l'intérieur même de ma pensée, vécue à l'intérieur même de ma pensée, qui va s'appuyer sur le vrai au niveau métaphysique, comme modalité de l'acte, comme ce qui mesure mon intelligence, et qui implique une certaine unité au niveau métaphysique. Donc vous voyez, là encore, je peux voir ce qui est vécu, qui s'appuie sur le point de vue métaphysique. L'opération vitale et le mouvement n'impliquent pas de modalité particulière dans l'ordre d'unité. Pourquoi ? Parce que je suis là en présence du conditionnement de ma vie intellectuelle, de ma vie humaine. Les opérations vitales sont multiples. Le mouvement implique toujours quelque chose de multiple. Il n'est pas un. Il possède une certaine unité, du fait même qu'il existe, mais alors c'est l'unité d'existence. C'est pas autre chose. C'est pas une autre unité. C'est l'essai présent dans l'opération vitale. Mes opérations vitales, du fait même qu'elles existent, ont une certaine unité. Le mouvement, du fait même qu'il existe, a une certaine unité. Mais c'est l'unité de l'essai. Ce n'est pas une unité propre aux opérations vitales et au mouvement. Ce qui est normal, étant donné que nous avions vu que les opérations vitales et le mouvement ne sont pas des modalités de l'acte au sens premier. Les trois premières modalités de l'acte, c'est l'essai bien et vrai. Donc, pas de problème nouveau. Nous avons donc, si nous réfléchissons, nous avons donc trois types d'unités au plan métaphysique. Trois types d'unités irréductibles. Vous pouvez mettre, si vous voulez, un quatrième en disant que l'essai représente quelque chose de particulier. Je veux bien, on va voir si on va pouvoir ramener cette unité à l'autre. Mettez quatre. L'unité au niveau de la substance. L'unité au niveau de l'essai. L'unité au niveau du bien. L'unité au niveau de la vérité. Il ne peut pas y en avoir d'autres, philosophiquement parlant. Au niveau métaphysique, je crois que vous voyez bien que ça revient directement par rapport aux diverses modalités. Ici, je supprime trois modalités, puis la substance. Nous avons donc quatre modalités de l'unité. Alors nous allons réfléchir sur le caractère irréductible de ces quatre modalités de l'unité et essayer de comprendre là les conclusions de la métaphysique. Vous avez donc quatre grandes conclusions de la métaphysique. Il n'y a pas 36, il y a quatre grandes conclusions de la métaphysique. Mais qui toutes présupposent une certaine expérience vécue. Hein. Ça, c'est ça qui est intéressant. Intéressant pour nous, hein, pour comprendre que la métaphysique, même si elle atteint quelque chose qui est au-delà de mon expérience, cependant est toujours en correspondance avec mon expérience. Le jugement d'existence est toujours en acte, et parce que le jugement d'existence est toujours en acte, il y a toujours une certaine répercussion psychologique que je peux saisir. Ce qui fait comprendre que quelquefois, on peut confondre la phénoménologie et la métaphysique. Parce que de fait, il y a un parallélisme qui se maintient entre les deux. Alors essayons maintenant de réfléchir sur le caractère différent de ces unités, comme conclusion métaphysique. Hein. C'est comme conclusion métaphysique que nous allons essayer de saisir cela. Donc, au-delà de l'expérience, vous pouvez garder l'expérience, mais je suis au-delà de l'expérience, je suis en face d'une conclusion métaphysique. Conclusion, donc, au niveau de la substance, au niveau de l'essai, au niveau du bien, au niveau du vrai. Cela, je vais voir le caractère propre de l'unité de l'un, mettez l'un, parce que c'est plutôt l'un, l'unité de l'un au niveau de la substance, de l'un au niveau de l'essai, de l'un au niveau du bien, de l'un au niveau du mal. Et puis, n'oubliez pas, nous avons eu l'expérience de l'œuvre d'art. J'en ai pas parlé jusque maintenant. Et nous nous poserons la question ensuite. Si l'expérience de l'œuvre d'art me donne vraiment un nouveau type d'unité au plan philosophique, ou c'est simplement au niveau du vécu. Je crois que ça se ramènera au vrai. Enfin, ça, on ne le dit pas tout de suite, hein. Je vous le dis pour que vous cherchiez, pour que vous ne soyez pas dans l'angoisse. Hein. Vous voyez, l'œuvre est une. L'unité de l'œuvre se ramène au vrai semblable de la vérité. L'exigence de l'unité de l'œuvre se ramène au vrai, pas au bien, pas à l'essai, pas à la substance. C'est uniquement au niveau du vrai. La parenté très curieuse entre l'œuvre d'art et le vrai. Alors vous voyez, c'est ce que nous prendrons la fois prochaine, c'est d'essayer de comprendre le caractère propre de l'un lié à la substance, l'essai, le bien et le vrai. réfléchissez là-dessus.